Radio Okapi. Le journal grâce à Mzati.
Pas de structure sanitaire à Lopanituri pour soigner les habitants qui retournent dans cette entité après l'attaque de la milice Codeco il y a une semaine. Des détails dans quelques instants. La paix des agents fonctionnaires de l'État commence ce mercredi 30 juillet. C'est ce qu'annonce le comité de suivi de la paix, précisant que les banques commerciales sont déjà approvisionnées en fonds pour cette opération. L'invité de ce journal est le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Jean-Baptiste Iti, pour parler de l'organisation imminente des élections des maires des villes, des bourgmestres et des conseillers urbains à travers le pays. Mesdames et messieurs, bonjour. À Ituri, une semaine après l'attaque de la milice Codeco, les habitants de Lopa commencent à regagner leur village. Mais sur place, ils font face à un problème. Plus aucune structure sanitaire fonctionnelle. Tout a été pillé ou détruit. Les autorités sanitaires appellent à l'aide. Isaac Rémo.
À Lopa, à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia, les populations reviennent dans une localité meurtrie. Lundi dernier, les miliciens Codeco ont pris d'assaut l'hôpital général de Tchikou, une structure qui accueille en moyenne 1 000 000 de patients chaque mois. Ils ont apporté médicaments, matériel médical et même les matelas. Les malades ont fui, certains sont restés sans aide. Aboli Odette, infirmière dans cette structure, témoigne.
Si les femmes viennent pour accoucher, que ferons-nous? Tout l'hôpital a été pillé. Il n'y a rien pour soigner les malades. Quel sera le sort de la population de Lopa pour le moment?
Même scène au centre de santé catholique de Lopa, d'une capacité d'accueil de 25 malades. Là aussi, tout a été emporté. L'abbé Kiré Deogracias de Donga ne cache pas son inquiétude.
Les soins que la population bénéficiait au niveau de notre centre de santé, il n'y en a plus parce qu'elle est vandalisée aussi. La population n'a pas accès maintenant aux soins de santé à cause de tout ce qui s'est passé là.
Malgré ces conditions, la localité de Lopa commence à se repeupler. Plus de 10 000 habitants déplacés par les violences rentrent petit à petit. Mais sans structure de santé, leur survie reste en danger. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, la situation était encore tendue hier dans le groupement Nyamaboko 1er dans le territoire de Masisi. Selon les sources locales, des violents combats ont opposé depuis le matin les éléments du mouvement AFC-M23 aux combattants Wazalendo des forces de défense des droits humains FDDH sur la colline Ndete, près du village Kazinga. Pour ces sources, après l'occupation des villages Showa et Chamarambo, groupement Buabo lundi, l'AFC-M23 a poursuivi hier mardi les attaques contre cette faction des groupes Nyatura vers Nyamaboko. Une situation, selon ces sources, qui entraîne un mouvement de déplacement de nombreux habitants des villages Nete, Ngoulou et environ vers les groupements voisins de Walo Ayungu, territoire de Walikale. Cette recrudescence des violences dans cette zone continue de mettre en péril le processus de paix en cours à Doha et à Washington, estiment plusieurs acteurs locaux. Nous l'avons dit dans les titres, les banques commerciales ont été approvisionnées en fonds pour la paix des agents et fonctionnaires de l'État qui sera effective à partir de ce mercredi 30 juillet 2025. C'est le comité de suivi de la paix qui l'a annoncé hier à Kinshasa. Cette structure précise que les opérations de paix des agents et fonctionnaires de l'État seront finalisées au plus tard le 2 août prochain conformément aux instructions du président de la République. On écoute les explications de Yannick Issassi, président ad intérim du comité de suivi de la paix dans cet extrait proposé par
ces instructions vont dans le sens, comme l'avait indiqué le communiqué publié récemment par le cabinet de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, qu'on puisse accélérer l'exécution de la paie pour le contenir jusqu'au 2 août. Aujourd'hui déjà, la mise à disposition de fonds a commencé et les instructions ont été données aux différents services, notamment qui préparent, je dirais, les listings et qui les transmet au niveau des banques, pour qu'ils puissent appuyer sur l'accélérateur de telle sorte que les instructions qui ont été données par les autorités puissent être, disons, faites exécutées. Et donc, voilà un peu globalement la discussion que l'on a eue, en fait, autour de la table. Et on peut conclure en rassurant aux différents agents publics de l'État que les gouvernements, à travers les autorités de supervision, sont en train de suivre la situation de la paix de manière assez, en fait, rapprochée pour permettre à ce que très rapidement les différents agents publics de l'État puissent entrer en possession de leur rémunération.
Dans l'actualité aussi, l'Union européenne et la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Justice, s'accordent sur l'importance d'une administration judiciaire efficace et d'une sécurité juridique renforcée. Ce mardi, le ministre de la Justice à l'intérim a échangé sur ces questions avec la délégation de l'Union européenne à RDC, conduite par le chargé d'affaires à l'intérim à Kinshasa, Blaise Ndongala Mayanda.
Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour de la rencontre entre les ministres Samuel Mbemba et ses invités, notamment la lutte contre la criminalité internationale, y compris les crimes d'agression, la problématique de l'exécution des décisions des juridictions internationales, la bancarisation des frais judiciaires et d'autres thématiques liées à la réforme du secteur judiciaire congolais. Le chargé d'affaires ad intérim de l'Union européenne revient sur la quintessence de ces discussions au sortir de cette audience. Antonio Camponi.
Nous avons pu parler de l'ensemble de la coopération de l'Union européenne dans les secteurs de la justice. Nous avons plusieurs activités en cours avec nos collègues des Nations Unies. Nous allons intervenir dans plusieurs sous-secteurs comme la bancarisation des frais de justice. Et nous avons aussi discuté de la possibilité d'appuyer les autorités sur d'autres initiatives qui font partie du plan stratégique de Son Excellence Monsieur le Ministre. Et nous sommes confiants que dans les semaines et les mois à venir, on pourra progresser ensemble sous plusieurs initiatives.
Par ailleurs, les deux parties se sont engagées à initier plusieurs projets dès le mois d'août prochain. Cette rencontre intervient près de deux mois après que les parlementaires européens ont appelé à la mise en œuvre de mesures urgentes pour garantir une justice transitionnelle et assurer une réparation adéquate pour toutes les victimes de violences et d'abus sexuels.
Autre nouvelle, au Congo central, la population des deux territoires composant les deux rives du fleuve Congo entre les villages Kimbemba dans les groupements Nyenge, secteur de Wombo, Songololo alerte les autorités, surtout celles du secteur des transports, sur la question des naufrages qui les guettent. D'après Eugène Kazatonda, président de la société civile Force Vive de Luozi, depuis plusieurs années, les traversées sur le fleuve Congo entre ces deux entités se font toujours de manière anarchique et plusieurs cas de naufrages sont déplorés. Eugène Kanza, dans ses propos recueillis par Nana Plurichwambo.
Nous, populations de deux territoires composant les deux rives qui regorgent du beach, c'est-à-dire beach de Kimbemba et le beach de Kimpongo, cité de Luozi, sommes exposés à un niveau où nous ne savons même pas les qualifier. En dehors des grands problèmes qui se posent, c'est-à-dire bac et ses accessoires, il y a aussi l'insécurité dans le traversé fluvial. Quand il s'agit de parcourir les 7 km de notre fleuve Congo, votre seule assurance sur Dieu. D'abord, il n'y a même pas de manifeste qui pourrait vous servir d'identification des voyageurs en cas de. Les sauvetages presque inexistants, que ce soit au niveau des bacs, pirogues, hors bord, rien. Et les cas de naufrage sont répétitifs. Il y a déjà 3 semaines, nous venons de perdre un papa et ses 3 enfants qui avaient perdu leur vie à cause du naufrage. Ils revenaient tous de leur champ de l'autre rive. Nous, Rassemblement des Forces Vives de Luozi, Rafoville en sigle, sommes fatigués de nous plaindre et aucune solution n'est trouvée à ces différents problèmes connus de ceux qui dirigent à tous les niveaux, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national.
Au sud Kivu, depuis lundi soir, 18 ménages se retrouvent sans abri à Bukavu après qu'un incendie a ravagé 11 maisons sur l'avenue Ewabora dans la commune d'Ibanda. Hier mardi matin, la désolation et la détresse étaient visibles sur les visages des victimes, ne sachant plus à quel sein se vouer. Ronelyne Tibonera nous en parle.
Selon des sources de la société civile, le feu serait parti d'un foyer domestique vers 20h avant de se propager rapidement à d'autres habitations. Aucun bien n'a pu être sauvé dans ces maisons, ajoutent les mêmes sources. Grâce à l'intervention de jeunes venus prêter main forte, 5 maisons ont été démolies de manière préventive, ce qui a permis de limiter l'extension des flammes. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, le bilan matériel est particulièrement lourd. Les familles sinistrées se retrouvent exposées au froid et à l'insécurité. Des sources locales à Bukavu signalent également qu'une école a été touchée par l'incendie. 5 salles de classe ont été entièrement détruites dans cette même zone. Ces drames s'ajoutent à celui survenu la semaine dernière dans la commune de Kadutu, près de l'église catholique Saint-François à Rukumbuka, où plusieurs habitants ont vu leur maison partir en fumée sans qu'aucune mesure concrète ne soit encore mise en place par les autorités locales. Depuis le début du mois de juillet, on estime qu'environ 100 de maisons ont été détruites par des incendies dans la ville de Bukavu. Une situation largement attribuée à la promiscuité et aux problèmes d'aménagement urbain qui rendent particulièrement difficiles les interventions des services anti-incendie.
Revenons à Ituri. Les jeunes doivent être mieux préparés à bâtir des foyers stables et responsables. C'est l'appel lancé par l'Agence des Nations Unies pour la population UNFPA à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée exceptionnellement ce 29 juillet à Bounia. Une centaine d'étudiants de l'université locale ont été sensibilisés à ce sujet. Reportage de Martial Kiza Biamungu.
C'est dans la salle de conférence de l'université de Bounia que plus d'une centaine d'étudiants ont pris part à une conférence débat autour du thème « Comment bâtir un foyer dans un monde juste et plein d'espoir ». Organisée par UNFPA, cette activité entre dans le cadre de la journée mondiale de la population, habituellement célébrée le 11 juillet, mais reportée à Ituri à ce 29 juillet. La représentante de UNFPA à Ituri, Brigitte Omari Azama, insiste sur l'importance de doter les jeunes d'une éducation complète et responsable pour leur avenir.
La jeunesse de l'UNIBOU, qu'est-ce qu'elle pense sur les défis qu'elle rencontre quant aux créations au fondement des foyers? C'est maintenant qu'elles doivent se prononcer sur ça pour qu'on essaie de leur donner aussi des orientations et pour que leur avenir ne soit pas compromis.
Parmi les participants, Pascal Maki, étudiant du deuxième licence, salue cette initiative. Comme beaucoup de ses camarades, il estime que ce type d'encadrement moral et social est essentiel. Au-delà des questions liées à la vie familiale, les étudiants ont aussi été sensibilisés à l'entrepreneuriat pour favoriser leur autonomisation économique après les études. Bounia, Martial Kizabiabongou, Radio Okapi.
Direction le Kasa Oriental, l'eau potable coule désormais en permanence au robinet de plusieurs ménages de la ville de Mbujimayi depuis bientôt 2 mois. C'est la suite à la multiplication des bornes et fontaines dans quelques quartiers et au raccordement de certaines parcelles résidentielles au nouveau réseau de la régie des eaux installé grâce au financement de la Banque africaine de développement et la Banque allemande de développement. Des explications avec Esther Ndalafina.
L'eau potable n'est plus une denrée rare dans certains quartiers de la ville de Mbujimayi, c'est-à-dire l'eau potable coule en permanence du matin au soir au robinet de plusieurs maisons résidentielles. Annie Kaja se réjouit.
Nous avons de l'eau en permanence et avec une pression, c'est presque tous les jours. Je suis très très ravie.
La permanence de l'eau au robinet a réduit les tarifs aux bornes fontaines. C'est ce qu'affirme cette ménagère Irène Mbombo.
On a acheté un bassin d'eau à 300 francs, 400, même 500 francs. Maintenant, on négocie à 150 francs. Je suis contente.
Le directeur régional de la régie des eaux, Didier Mboudilelo, signale que cette action rentre dans le cadre du projet financé par la Banque africaine de développement, BAD, et la Banque allemande de développement, KHW.
Deux châteaux d'eau que vous voyez là-bas, qui se forment la commune de Dioulou, distribuent de l'eau partout là-bas. Donc maintenant, l'eau attend la population. On est en train de finir Dioulou pour les bonnes fontaines. On a déjà fait la partie de Dibin.
La régie des eaux demande à ses abonnés d'être patients car elle poursuit les raccordements des parcelles résidentielles à son nouveau réseau de distribution d'eau. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, a annoncé ce mardi dans une allocution filmée qu'il serait candidat à sa propre succession dans 3 mois. Après avoir été élu en 2010, en 2015 et en 2020, Alassane Ouattara est en lice pour un 4e mandat. Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et transparentes, alors que l'opposition dénonce le processus électoral, notamment en raison du rejet de plusieurs candidatures, dont celle de Tidjane Thiam et de l'ancien président Laurent Gbagbo.
L'invité.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié jeudi dernier un communiqué rectificatif concernant le calendrier des élections locales. Une mise à jour qui corrige une erreur matérielle relevée dans une précédente note. Ces nouveaux chronogrammes concernent les scrutins des conseillers urbains, des maires et leurs adjoints ainsi que des bourgmestres et leurs adjoints sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit selon la CENI de la dernière étape du cycle électoral en cours. Pour en parler, nous recevons Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la centrale électorale. Il s'entretient ici avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur Jean-Baptiste Itipo.
Bonjour la radio Capi.
La commission électorale nationale indépendante CENI vient de publier un nouveau calendrier. Que comprendre de ces documents?
En fait, le calendrier rendu public à la date du 22 juillet 2020, c'est un calendrier électoral qui porte sur les élections des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Donc la commission électorale nationale indépendante a rendu public ce calendrier qui normalement rentre dans le cadre de l'application du calendrier électoral rendu public depuis 2022.
Ce nouveau chronogramme précise les étapes à venir pour les élections de bourgmestre, maire et leurs adjoints. La CENI a-t-elle les moyens de sa politique?
Vous savez que le processus électoral en République démocratique du Congo est financé entièrement par le gouvernement de la République. À ce niveau, tout le monde a été informé des échanges entre la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement à travers la vice-primature chargée de l'intérieur. J'ose croire que le gouvernement mettra des moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI exécute ses calendriers rendus publics.
Les communs des mortels se posent des questions, à savoir qui sont habilités à voter les bourgmestres, les maires et leurs adjoints.
Très très bonne question. Les bourgmestres adjoints ainsi que les conseillers urbains sont élus au second degré par les conseillers communaux. Par contre, les maires et maires adjoints sont élus au troisième degré par les conseillers urbains. Et je précise que il n'y aura pas élection de maire et maire adjoint à Kinshasa, parce que Kinshasa a le statut d'une ville-province et que l'élection de bourgmestre, bourgmestre adjoint, conseiller urbain, maire et maire adjoint va se réaliser uniquement dans les communes situées au chef-lieu des provinces.
Quel est le sens que vous donnez à ces calendriers publiés pour apporter la correction?
Juste une petite erreur qui s'est glissée en ce qui concerne l'élection des maires et maires adjoints. Vous avez l'habitude d'utiliser l'ordinateur, il y a parfois les effets des copies-collées et cela est arrivé malheureusement. Et donc voilà pourquoi on a rendu public un autre communiqué pour dire que les maires et les maires adjoints sont élus par les conseillers urbains. Mais la première partie de votre question est intéressante parce que le calendrier rendu public va permettre au pays d'asseoir davantage la démocratie à la base. Désormais donc, nos bourgmestres seront élus et donc seront redevables vis-à-vis de la population. Parce que les conseillers communaux qui vont élire les bourgmestres et bourgmestres adjoints doivent le faire au nom de leurs électeurs. Ils vont agir conformément au mandat qu'ils ont reçu du souverain primaire. C'est pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des actes de corruption des conseillers communaux pour élire le bourgmestre, bourgmestre adjoint ou le conseiller urbain.
Quel est le soubassement juridique de ces textes que la CENI vient de publier?
En fait, le soubassement juridique, c'est normalement la loi électorale qui donne mandat, et même la Constitution de la République donne mandat à la CENI d'assurer la régularité du processus électoral. Et voilà, la CENI est dans cette prérogative constitutionnelle d'assurer la régularité du processus électoral en République démocratique du Congo.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, nous vous disons merci.
Merci beaucoup à la radio Capi.
Jean-Baptiste Itipo est le directeur de la communication de la centrale électorale. Il s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi prend fin ce journal coordonné et supervisé par Alain Rung. Merci à Pierre Diassinois pour la mise en onde. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Merci également à vous tous, chers auditeurs, pour votre confiance à la fréquence de la paix.